On est aujourd'hui le jeudi 27 Adar Rishon, on est le 27 février, on commence aujourd'hui notre cours de paracha. Et cette paracha, paracha Pekoudé, termine le livre de Shemot. On a un principe, je l'ai expliqué cette semaine aussi, d'ailleurs le cours d'aujourd'hui reprendra au moins au début certaines notions qui sont déjà sur le site, le cours qui a été donné lundi dernier sur la paracha. Et ce que j'ai dit alors, je le redis aujourd'hui, on a un principe fondamental, Sof Maase Bemachashava Techila. La Torah, ou les messages de la Torah, se dévoilent véritablement à la fin du processus. Comme quelque chose qui est en création, qui est en gestation, c'est au fur et à mesure qu'on voit la chose évoluer, mais elle n'est véritablement compréhensible qu'à la fin. De la même manière, la dernière paracha d'un des livres de la Torah est censé contenir l'essentiel de tout le livre traité. Notre livre qui se termine est le deuxième livre de la Torah, le livre de Shemot. Et ce livre-là, comme son nom l'indique, Shemot, le livre de l'identité. C'est dans ce livre-là que notre peuple est né. C'est donc dans ce livre-là qu'on s'attend à comprendre, à commencer de comprendre ce qu'est l'identité du peuple juif, pourquoi il est sorti d'Égypte, quelle est sa mission et surtout pourquoi il a été choisi, puisque l'histoire d'Israël, c'est l'histoire d'un choix que le maître du monde a fait au milieu des 70 peuples. Donc s'il est clair qu'au fur et à mesure des parachiotes, quand on sait lire et quand on comprend les messages de la Torah, on s'aperçoit effectivement qu'au fur et à mesure, on nous construit, on nous dévoile l'identité, c'est-à-dire la mission d'Israël. Mais c'est surtout en principe, dans cette dernière paracha, paracha de Pekoudé, que les choses devraient se dévoiler de la manière la plus claire. Le grand problème de paracha de Pekoudé, on le sait, c'est exactement ce que j'ai dit la semaine dernière sur paracha de Vayakhel. Ça semble être des répétitions qui n'en finissent pas. Rappelez-vous le cours de la semaine dernière. Je pense, à mon avis, que ça a été l'un des meilleurs cours de Chumash que j'ai fait depuis fort longtemps. Alors qu'au départ, comme je vous l'avais démontré, c'était une parcha qui était l'une des plus rébarbatives de toute la Torah. Ce que j'ai dit la semaine dernière, je peux le répéter cette semaine. Parcha Pekoudé, c'est encore plus saoulant que Parcha de Vayakhel. Et on répète, et on répète, et on répète, et on répète. On se demande combien de fois ils vont nous le dire. Mais là, vous avez une preuve que le bon Dieu était tunisien. Il répète, il répète, il répète, il répète. En tous les cas, quoi qu'il en soit... Non, les Tunisiens, ils ne parlent pas sans arrêt comme ça. Non. Je vais me faire descendre. Monsieur Ktorza est en train de me jeter un regard. Mais il a le respect du rab, Monsieur Ktorza. Même quand j'agresse, il ne répond pas. Ça, c'est la grandeur d'un Tunisien.
Ça, c'est l'avantage de l'âge.
Maintenant, il a la sagesse de l'âge, exactement. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, j'ai le droit de blaguer. Ça fait 15 ans qu'il est avec moi. Il sait que je ne pense pas un mot de ce que je dis. Quoi qu'il en soit, donc, ces répétitions qui n'en finissent plus. Et vraiment, c'est à se demander pourquoi. Alors, bien sûr, on a un principe, vous le connaissez. Et si, dans mes cours de Chumash, je ne serais arrivé à ne vous faire passer que ce principe-là, je pense que j'aurais déjà réussi quelque chose de pas mal. Quand on ne comprend rien dans une paracha, qui il faut aller voir? Qui, à part moi, qui?
Le
Balatourim. Bravo, Michel. Le Balatourim. Le Balatourim, non, pas toujours Rashi. C'est-à-dire que Rashi, oui, bien évidemment, oui. Et Rashi a expliqué avant le Balatourim qui n'est que de la génération de ses petits-enfants à Rashi. Mais Rashi est encore un commentaire, on pourrait dire, très fermé, très caché. Il faut vraiment fouiller jusqu'au plus profond de ce qui se cache dans un Rashi pour avoir le mérite d'en extraire les diamants. Le Balatourim, lui, est déjà beaucoup plus direct. C'est-à-dire, il écrit d'une manière où tout de suite, il te suggère le diamant. Et c'est pour ça qu'il n'est pas forcément plus profond et plus révélateur que Rashi, mais il est plus facile que Rashi. C'est pour ça, parce qu'il est venu bien après. Et le Balatourim, effectivement, cette paracha va nous révéler quelque chose d'extraordinaire. Un mot qui ouvre la clé de toute cette paracha, et on a pas mal de choses à voir aujourd'hui. Il nous fait remarquer que quand il est répété dans notre paracha quelles ont été les offrandes, c'est-à-dire les matériaux que tous les enfants d'Israël ont apportés pour pouvoir construire Le Mishkan, il fallait apporter du bois, il fallait apporter de l'or, de l'argent, du cuivre, des tentures, des peaux de bête, des ficelles, des clous, il fallait apporter toutes sortes de choses. Il nous fait remarquer que lorsqu'ils ont fini d'apporter, le mot qui est utilisé dans la Torah, c'est Vayechal, Aham, Le'avi, Vayechal. Ils ont terminé. Or, le Baal HaTorim nous fait remarquer, et c'est sa spécialité, que ce mot-là est un mot rare dans la Torah pour parler d'une chose qui se termine. Le mot qui aurait dû être utilisé, surtout pour une action comme celle-là, Vigmeru, Vegamru, Bnei Israël, Mele'avi. Ils terminèrent d'apporter. Siimu, Siimu c'est déjà moins biblique, c'est déjà plus de l'hébreu moderne. Mais Ligmor est un mot biblique. Et qui va beaucoup mieux dans le contexte de terminer d'apporter. Et donc pourquoi le mot Vayechal, qui est un mot très très sophistiqué pour dire apporter ou terminer, terminer une chose. Et il nous fait remarquer que finalement les deux endroits dans la Torah où ce terme est utilisé, c'est lorsque Dieu termine la création du monde, Vayechulu, Hashamayim Va'aretz, notre Kiddush, le ciel et la terre furent terminés. Le mot utilisé, c'est pas Venigmeru, mais Vayechulu, et on va tout de suite comprendre pourquoi. Et de même, quand ils ont terminé d'apporter tous les matériaux nécessaires à la construction du Mishkan, il est dit aussi Vayichal Aham. Là, c'est un singulier parce que Aham, c'est un mot au singulier, le peuple, comme en français, bien qu'il est composé de nombreuses personnes. Et donc, quelle est la relation? Le Baal HaTorim nous dit, il ouvre la porte, il entr'ouvre la porte, mais après il est déjà beaucoup plus facile de continuer à l'ouvrir. Il nous dit pourquoi le même mot pour nous faire comprendre que le monde n'a véritablement été terminé que lorsque le Mishkan a été construit. Ça veut dire que le monde était en attente d'être terminé, mais véritablement il a été terminé lorsque le Mishkan, le tabernacle a été fait. Bien sûr, on peut se poser une question, oui, parce qu'on nous dit quand même là-bas, Vayechulu, le monde a été terminé. Alors, c'est pas parce que c'est le même mot que tu vas dire qu'il a fallu attendre plus de 2000 ans pour qu'il soit terminé, puisque déjà là-bas, on nous dit qu'il est terminé. À cette question que je demande, le Baal HaTorim ne répond pas. Mais évidemment qu'il fait un minimum, on pourrait dire, appel à notre connaissance, à notre intelligence, pour répondre nous-mêmes aux questions qu'il n'a pas pris la peine d'évoquer pour nous, parce qu'il nous fait confiance et il comprend que nous-mêmes, on va trouver la réponse à cette question. Et effectivement, c'est le Baal HaTorim qui a raison. Parce que là-bas, dans le texte de la création, ce qui a été terminé, c'est la Bria, mais pas la Assia. Comme il est dit dans le récit de la création, Bereshit Bara Elohim. Le récit de la création parle du monde de la Bria. Je vais expliquer bien sûr dans quelques secondes. Tandis que chez nous, regardez, des dizaines de fois il est dit au sujet de la construction du Mishkan, Vayahassou, 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 et ils firent, ils firent, et ils firent. Et quand on dit ils firent, c'est le mot Assia qui est utilisé. Et la preuve que le Baal HaTorim a raison, c'est que dans le récit de la création, dans le Vayahoulou, tu viens? Comment se termine le Kiddush, Vayechulu Hashem Va'aretz, Asher Bara Elohim, Lasot. De nombreux cours ont été construits sur ce verset-là ces derniers temps. Asher Bara Elohim, Lasot, j'ai commencé un monde qui n'est pas terminé, c'est à vous de le terminer. Et donc on comprend très bien ce que dit le Baal HaTorim. C'est vrai que Hashem a terminé quelque chose, mais il a terminé la Bria. Mais nous, Bnei Israël, avons terminé véritablement la création, en ce sens que nous, on a fait descendre la création jusqu'au monde de la Assia. Et le tabernacle, c'est la Assia. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ne vous inquiétez pas, on ne va pas du tout faire de Kabbalah aujourd'hui. On va directement rentrer dans le concret. Qu'est-ce que c'est la Bria? Qu'est-ce que c'est un monde qui n'est encore qu'en état de Bria? Et qu'est-ce que c'est un monde qui est en état de Assia? Un monde qui est en état de Bria, c'est un monde qui est encore totalement dans l'obscurité. Un monde sans lumière, c'est un monde de Bria. C'est pas très gentil pour le maître du monde de l'accuser de faire des choses obscures. Mais c'est pourtant son humilité d'accepter de ne faire que des choses à moitié, afin de nous laisser à nous faire l'essentiel. Et quand Hachem fait quelque chose à moitié, on est encore dans l'obscurité. De quel droit, d'où je sais que la création d'Hachem, si ce n'était que la sienne, est une création qui est dans l'obscurité? Eh bien, c'est un verset qu'il le dit, que nous récitons tous les matins avant le Kriyat Shema. Baruch ata Hashem Elokeinu Melech Haolam, Yotzer Or, ou Boré Chosher. Boré Chosher. La Bria, c'est l'obscurité. Comment? Bravo. Vayehi Or. La question est excellente. Il y avait déjà eu la lumière. Mais qu'est-ce que nous disent nos maîtres? Que la lumière du premier jour, qui n'est apparue que le premier jour, tout de suite a été cachée. Et pourquoi cette lumière, il l'a créée le premier jour? Ça, c'est à cause d'un principe fondamental connu et qu'il faut constamment répéter. C'est vrai qu'Hachem a donné à l'homme la mission d'éclairer son monde, mais si Hachem n'avait pas déjà mis dans le monde les principes qui vont permettre à l'homme de réussir, l'homme ne pourrait pas réussir. Le cours de la semaine dernière, le Beth Amikdash est beaucoup plus important que le Shabbat, mais sans le Shabbat, il n'y a pas de Beth Amikdash. Donc Hachem a déjà mis dans le monde sa capacité à briller, et en vérité, le travail de l'homme n'est que de dévoiler la lumière qu'Hachem y a cachée. Mais quoi qu'il en soit, ce travail est celui de l'homme, et si l'homme ne dévoile pas la lumière, automatiquement le monde reste dans l'obscurité. Hachem a volontairement créé un monde qui est un monde obscur, afin de permettre à l'homme d'y dévoiler la lumière. Et ça, c'est la Assiya. Et en ce sens, le Balatouri m'explique effectivement que lorsque le Beth Amikdash, le tabernacle, sont là, à ce moment-là, la lumière se diffuse dans le monde. Et effectivement, on a une histoire extraordinaire avec le roi Hérode. Le roi Hérode, comme vous le savez, a été un très mauvais roi, un roi très cruel, un roi qui détestait la Torah et qui a fait mettre à mort pratiquement tous les maîtres de son époque. Il était, d'une certaine manière, le capot des Romains à Jérusalem, le représentant des Romains et leur capot. Et c'était un très très grand oppresseur. Et donc, de son temps, il a fait fermer toutes les yeshivot et il interdisait l'étude de la Torah. Et il a fait donc tuer, exterminer tous les maîtres de son temps. Sauf un ou deux, ceux qui se sont échappés, mais un qui l'a autorisé à rester à Jérusalem, deux pardon, un qui était son beau-frère, il n'avait pas le choix, il était marié avec sa sœur, Rabbi Shimon ben Shetar, et un autre qui l'a gardé, Rabbi Yehuda ben Baba. Pourquoi? Parce que c'était un très 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 grand sage, et surtout qui avait une connaissance des affaires de ce monde comme personne, et il l'a gardé pour en faire son conseiller. Mais, pour ne pas qu'il s'échappe, il l'a aveuglé. Il lui a fait crever les yeux, le bon roi Hérode. Il lui a fait crever les yeux et il l'a gardé comme conseiller. Rabbi Yehuda ben Baba, ou Bouta, je ne me rappelle pas. Rabbi Yehuda ben Baba. Et donc, voilà que ce conseiller est à ses côtés. Et un jour, le roi Hérode lui-même a voulu tester la confiance, la fidélité de ce conseiller, parce que peut-être qu'il me donne des conseils pour me faire chuter, me faire tomber. Et donc, il s'est entraîné à changer sa voix, et il est venu lui parler comme quelqu'un, parce que, évidemment, Hérode avait des milliers d'ennemis, puisque c'était un despote. Il est venu lui parler comme quelqu'un qui voudrait prendre conseil auprès de ce maître pour voir et savoir comment se révolter contre Hérode. Et donc, il est venu lui parler. Et le Rav a dit, non, je suis désolé, je ne suis pas la bonne adresse pour ça. Il a essayé par tous les moyens, il dit, mais ne t'inquiète pas, personne ne nous entend, mais enfin, il faut quand même reprendre le pays en main, on ne va pas laisser ce fou, ce monstre, en plus, d'après notre tradition, il n'était même pas juif. Donc, Hérode n'était pas juif, d'après notre tradition. Et donc, on ne va pas laisser ce fou continuer à massacrer notre peuple et à être à la solde de Rome. Rien n'y fait. Il refuse, le maître, de coopérer. À un moment, le roi se révèle et lui dit, « Mais alors, c'est absolument incroyable, incroyable, j'aurais jamais pu imaginer que je pouvais à ce point te faire confiance. » N'imaginez surtout pas qu'il s'était le maître vendu à la cause de Hérode. Mais tout simplement, il était extrêmement méfiant extrêmement sage et justement ne voyant pas, il n'avait confiance en personne et il a bien fait de ne pas avoir confiance parce que s'il avait trahi, il était en train de parler au roi de comment tuer le roi. Le roi stupéfait d'abord par son intelligence, sa sagesse, sa malinerie d'une certaine manière, lui dit « Mais si j'avais su ce que sont les maîtres d'Israël, jamais je les aurais tués. Qu'est-ce que je peux faire pour réparer » dit-il. Et le maître lui répond « Tu as éteint la lumière du monde, à toi de reconstruire la lumière du monde. » Il demande « Mais ça veut dire quoi reconstruire la lumière du monde ?» Ça veut dire, le temple existait à cette époque-là, mais il était dans un état de ruine volontaire provoqué par les Romains qui interdisaient qu'on s'occupe des réparations journalières qui font qu'automatiquement, le bignal, qu'on appelle ça le bignal, le bâtiment, et avec les décennies qui passaient, allait en s'écroulant. Et il a dit, reconstruit, pas dans le sens qu'il n'existait pas, mais reconstruit le temple. Et effectivement, il a consacré un argent énorme à reconstruire le temple, au point que nos maîtres disent, celui qui n'a pas vu le temple construit par Hérode n'a jamais vu une belle construction de sa vie. Et donc, en tous les cas, on voit de cette histoire-là que le temple est appelé la lumière du monde. Pourquoi ? Ki mitzion tetzé Torah ou dvar Hashem Yerushalayim. En vérité, sont appelés la lumière du monde, les maîtres d'Israël et le temple. Et donc automatiquement on comprend que Hachem a créé, bara, un monde obscur afin que le peuple juif y mette de la lumière, mais cette lumière pas pour qu'elle reste introvertie à l'intérieur du peuple, qui mitzionne tête cette Torah, afin que la lumière éclaire l'humanité tout entière. Donc ça finalement c'est le sujet, sur deux mots, voilà ce que le Baal HaTorim nous révèle. Si vous me demandez à quoi sert cette paracha qui termine le livre de Shemot, en quoi on voit dans cette paracha que véritablement l'identité d'Israël est enfin véritablement révélée, eh bien effectivement, le Baal HaTorim nous explique que toute cette paracha, et il le montre aussi d'autres manières, je vais vous l'expliquer tout de suite au moins une, cette paracha est là pour nous montrer que la mission d'Israël est d'éclairer le monde. Et pour ça, il faut un lieu duquel sort la lumière, c'est le temple à Jérusalem, dont le tabernacle n'est bien sûr que la préparation, un échantillon. Et le Baal HaTorim conclut son explication avec un coup de génie. Il nous dit, prenez la valeur numérique de Vayicha la'am le'avi, le peuple termina d'apporter, il dit c'est la valeur numérique de le 25 qui se lève, ils terminèrent d'apporter. Ils terminèrent. Le 25 qui se lève. Le 25 qui se lève, vous pouvez penser à quoi ? Hanouka, la fête de la lumière qu'on allume dans la nuit. Ça veut dire que dans ce verset est écrit la gematria, la valeur numérique de Be Esrim Vechamesh Be Kislev Heviyu. C'était le 25 du mois de Kislev. C'est-à-dire que la Providence a fait en sorte qu'ils terminaient d'apporter tout ce qui était nécessaire pour construire l'endroit de la lumière. Ils l'ont terminé le 25 qui se lève. On comprend pourquoi des siècles plus tard, la victoire de Hanouka et l'allumage de la menorah va se faire le 25 qui se lève, parce que déjà des siècles auparavant avait été préparé que ce jour-là est un jour lié à la lumière. On comprend d'autant plus magnifiquement que dans le Midrash, il est dit « Yavan, hu achosher shel haolam ». Yavan, c'est eux, c'est-à-dire que la civilisation grecque, ce sont eux l'obscurité du monde. Et donc, Hanouka qui est la fête de la lumière pour chasser, repousser l'obscurité de ce monde. Donc, on n'a toujours pas commencé le cours, on sait au moins que Parshat Pekoudé nous révèle ce qu'est notre mission. Un juif est là pour briller et que sa lumière éclaire le monde. Maintenant, on va essayer de comprendre un petit peu plus profondément ce qu'est la lumière. Parce que ça veut dire quoi éclairer le monde? Alors là, on va vraiment rentrer dans le cœur du cours et c'est, je pense, assez passionnant. Là aussi, c'est révélé dans notre paracha. Qui est celui qui est appelé le fils de la lumière dans notre paracha? Le fils de la lumière. À part le chef des Incas. Comment? Ou des Mayas, qui est appelé le chef de la lumière? Je suis le fils de la lumière. Qui? Dans la paracha. Qui est le fils de la lumière? Betzalel ben Uri.
Ben
Uri ben Chur. Betzalel, comme par hasard, celui qui a fait le tabernacle. Betzalel ben Ur.
Ben
Uri. Ça veut dire Betzalel, fils de ma lumière. La lumière de qui? Au niveau du drash, la lumière d'Hachem. Celui qui a hérité de la lumière d'Hachem, c'est Betzalel. Et c'est pour ça, lui étant capable d'être véritablement le réceptacle de la lumière d'Hachem, c'est pour ça qu'il peut créer l'endroit qui propage la lumière d'Hachem.
Il avait 13
Betzalel ans. Ben Urish.
Il avait 13 ans.
Nachon, le Gaon de Vilna, il n'y a pas si longtemps que ça. Le Gaon de Vilna, à l'âge de 6 ans, il n'y a que 300 ans, là on parle 3500, il n'y avait plus un seul homme, plus un seul maître dans toute la Lituanie qui pouvait lui enseigner la Torah. Il avait 6 ans. 6 ans.
Mais là, c'est un artisan, c'est pas un...
Non, c'est pas un artisan, non, pas... il a tout créé d'après la forma du monde. Bon. On continue. Chut, non, chut. Comment? Il y a aussi un sens. Le Zohar explique que Ori, c'est le Vav qui est ponctué en haut. Ori, c'est le Vav qui est ponctué au milieu. Ça veut dire que c'est la lumière qui descend dans ce monde. Et comme c'est la suite du cours. Donc, c'est le fils de ma lumière. Ce qui est très intéressant, mes amis, c'est qu'il y a ici dans son nom un paradoxe. Parce qu'il est le fils de ma lumière, dit Hachem. Mais donc, il s'appelle Betzalel. Ça veut dire quoi? Betzalel, comme on va le voir dans le fameux commentaire de Rashi.
À l'ombre de Dieu.
À l'ombre de elle, à l'ombre de Dieu. Alors, tu es ma lumière ou tu es mon ombre? On voit quelque chose absolument incroyable dans le nom de Betzalel. Il est l'ombre de Dieu alors qu'il est le réceptacle de sa lumière. Est-ce que le réceptacle de la lumière ne serait-il pas justement l'ombre? Je répète. La lumière, c'est ce qu'il y a dedans. On vient de dire que Betzalel est le réceptacle de la lumière d'Hachem. Mais un réceptacle, c'est ça. Un réceptacle peut être fait comme ce verre en carton. Il peut être fait comme un autre en cristal. Il peut être fait en argent. Il peut être fait en or. De quoi est fait le réceptacle qui contient la lumière d'Hachem? La Torah nous répond, il est fait d'ombre. L'ombre est le réceptacle de la lumière. Betzalel ben Uri. On n'a toujours rien compris, mais on va avancer. Autre indication, il y en a deux autres, Otz au pluriel. Il est aussi ben Chur. Ben Uri, ben Chur. Qui était Chur?
Le beau-frère de Myriam, non?
Le fils de Myriam.
Le fils de Myriam, pardon.
Le neveu de Moshe, fils de Myriam. Donc il est le réceptacle ombragé qui contient la lumière, fils du fils de Myriam. Et de quelle tribu il est?
Les
Matei Yehuda.
Yehuda,
la tribu des rois.
Ah, Caleb ben Yefouné, c'est resté son mari.
Les Matei Yehuda de la tribu des rois. Donc on a deux indications extrêmement importantes qui vont nous permettre de comprendre pourquoi il est devenu le réceptacle de la lumière. Dans son nom est expliqué tout ce qu'on doit comprendre sur le personnage. Il est le réceptacle parce qu'il est de l'ombre, donc il peut contenir la lumière. Mais pourquoi lui a-t-il pu être le réceptacle de la lumière? Parce qu'il est Ben Chur, fils de Myriam, enfin descendant de Myriam, qui elle-même appartient à la tribu de Yehuda. Non, Myriam était une Lévi, alors pourquoi elle appartient à la tribu de Yehuda? Parce que son mari était Caleb ben Yefouné, était le prince de la tribu de Yehuda. Et comme la tribu se transmet par le mari et non par la mère, par le père et non par la mère, la judaïté par la mère, mais l'appartenance familiale par le père, donc parce que son arrière-grand-père était le prince de la tribu de Yehuda, Chur, Uri et Betzalel sont des, eux aussi des princes de Yehuda. Donc, on commence à voir un petit peu plus clair. Maintenant, ce qu'on va essayer de comprendre, c'est pourquoi le réceptacle, après on comprendra tout, mais on va commencer par le bas, pourquoi le réceptacle s'appelle-t-il l'ombre? Afin de le comprendre, Rashi nous l'explique au tout début de la paracha, en nous faisant remarquer une fois de plus ce qui a été le sujet de base de tout mon cours de la semaine dernière, c'est que dans l'énoncé de l'ordre à respecter dans la construction du Mishkan, il y a une pagaille au point qu'on n'y comprend plus rien, dit Rashi. Il y a des fois, on voit que l'ordre est de commencer par l'arche, après la table, après la menorah, après l'autel en or, et après les poteaux, et après les tentures. Donc on va des ustensiles à la maison. Et il y a autant de fois dans les mêmes parachiotes, y compris dans notre paracha, où deux passages se suivent et se contredisent dans la même paracha la nôtre. Il y a un passage de 5-6 versets où il est clairement dit que Dieu dit à Moshe, construis l'arche, la table, la menorah, l'autel en or et après la maison. Et deux versets plus loin, le même passage où il est dit, et ils construisirent la maison et après les ustensiles. Alors Rachid dit, je ne comprends pas. Ce phénomène se répète dans toutes les parachutes qui parlent du Mishkan. Rachid dit, je voudrais une fois pour tout comprendre. Est-ce qu'on a commencé par les ustensiles ou on a commencé par la maison? Rachid nous dit, ça a été précisément le sujet d'une grande discussion entre Moshe et Betzalel. Moshe est venu à dire à Betzalel, comme c'est marqué dans différents endroits, et encore dans notre paracha, tu construiras l'arche, puis tu construiras la table, puis après la menorah, puis après tous les ustensiles, et enfin, quand tu auras terminé les ustensiles, tu construiras le pourtour, tu construiras la maison. Betzalel lui dit, Moshe, es-tu sûr que c'est ce que Hachem t'a dit? Pourtant, Minago shel olam, ça c'est le mot clé dans Rashi. Minago shel olam, lui dit-il, le minag, l'habitude dans ce monde, c'est d'abord de construire la maison et après d'y mettre les meubles. Quand Moshe entend ça, il dit, oh oui, c'est vrai, tu as raison. Effectivement, c'est moi qui me trompe. Hachem m'a demandé d'abord de construire la maison et après d'y mettre les meubles. Et Moshe lui rajoute, mais dis-moi, je ne comprends pas, Betzalel. Tu étais dans l'ombre d'Hachem, toi, pour savoir exactement ce qu'il m'a dit et le comprendre mieux que moi? Parce qu'effectivement, comme il me parlait d'une manière un petit peu embrouillée, moi-même, je me suis trompé. Mais toi, tu étais dans son ombre, comme on dit en français, pour mieux comprendre que moi, ce que moi-même, le plus grand de tous les prophètes, je n'ai pas compris. Ou tu étais Betzalel quand Hachem m'a parlé dans son ombre? Et de là, son nom, Betzalel, à l'ombre de Dieu. Bon, c'est très joli, mais il va falloir dépasser le joli pour arriver à la compréhension. Qu'est-ce qui se cache derrière ça? En vérité, on va mettre en évidence apparemment la réponse inacceptable de Betzalel. Betzalel lui dit, Minago shel olam, c'est l'habitude du monde de construire une maison avant d'y mettre les meubles. En quoi je dis que cette réponse, cette prise de position peut paraître inacceptable? Parce que, est-ce que tu demandes à Hachem de se comporter selon le Minag HaOlam? Hachem n'a pas le droit, lui, de se comporter selon ses critères et ses principes à lui. Est-ce que selon le Minag HaOlam, on mélange le lait et la viande? Oui. Quelqu'un est mort de manger un steak cuit dans le beurre, jamais personne n'en est mort. Minag HaOlam, 7 milliards de personnes mangent du steak au beurre. Ça ne tue personne, les juifs ne vivent pas plus longtemps que ceux qui mangent. Minag HaOlam, de porter un habit où il y a un mélange de lin et de laine. Et ils ne meurent pas plus vite que nous, et ils ne sont pas en moins bonne santé que nous. Si on commence Minago shel olam, il n'y a plus de place pour toute la Torah. Minago shel olam de s'arrêter complètement un jour par semaine au point de même pas ouvrir un parapluie dehors quand il pleut à torrent et t'arrives trempé là où tu dois arriver. Minago shel olam de pas allumer une lumière dans une pièce quand tu cherches quelque chose et comme un taré tu cherches sans pouvoir allumer la lumière alors qu'il suffit d'appuyer sur un interrupteur. Si on va avec le Minago shel olam, y a plus de place pour la Torah. Toute la Torah elle est au-dessus du Minago shel olam. Alors ici, comme il s'agit de diffuser la lumière de la Torah dans le monde, comment Betzalel peut venir au nom de Minago shel olam? La question, c'est une bombe atomique. Et pourtant, c'est lui qui a raison. Alors, je vais d'abord répondre pourquoi il a raison, et je vais mettre de côté les questions que j'ai posées pour l'instant sur le mélange du lait et de la viande, l'un et l'aile. Je ne vais pas y répondre à ça pour l'instant. Mais d'abord, c'est Betzel qui a raison. Pourquoi ? Moshe, lui, effectivement, et c'est ça en vérité ce que Hachem voulait en le trompant, Hachem a volontairement mis une peau de banane sous les pieds de Moshe pour que Moshe se trompe et pour que Moshe apprenne une leçon de Betzalel. C'est-à-dire pour que l'homme de la Torah apprenne une leçon de l'homme de la... Malchut, Yehuda. Et on revient encore une fois à cette notion qui est la couronne d'Israël, c'est le cas de le dire. Moshe Betzalel incarne l'homme de la Torah, l'homme de la Yeshiva, l'homme de l'étude, et Betzalel c'est l'homme de l'action, l'homme de la Asiya, c'est l'homme de la Malchut, l'homme de la royauté, l'homme du terrain, l'homme de la nation. Qu'est-ce que fait Hachem ? Il met une peau de banane sous les pieds de Moshe. Des fois, il lui dit, tu construis d'abord l'arche, et des fois, il lui dit, tu construis d'abord la maison. Qu'est-ce que va faire Moshe ? Ben, il va choisir entre les deux options selon sa nature et sa sensibilité. Et sa sensibilité, comme c'est un homme extrêmement spirituel, pour lui, qu'est-ce qui est le plus important ? Qu'est-ce qui est au-dessus de tout ? La Torah. Et donc, il vient chez Bessa, il lui dit, bon, on commence par la Torah. S'il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de monde. Betzalel lui dit, Moshe, avec tout le respect, écoute-moi, la lumière de la Torah, elle doit éclairer quoi ? Le monde d'en haut ou le monde d'en bas ? Le monde d'en bas. Si la Torah doit éclairer le monde d'en bas, il faut que cette lumière emprunte le chemin du monde d'en bas. Tu ne peux pas expliquer en français, tu ne peux pas expliquer en chinois quelque chose à un français. C'est impossible. Parce que s'il comprend le chinois, c'est plus un français. Donc, si tu veux lui expliquer quelque chose qu'il comprenne, il faut l'expliquer dans sa langue. Betzalel dit, Moshe, toi tu as une vision de la Torah qui est trop haute par rapport à ce monde. C'est sûr que l'idéal c'est la Torah, mais c'est pas comme ça que ce monde fonctionne. Et si le but c'est d'éclairer ce monde et pas les anges, il faut que la Torah parle le langage du monde. Descends un petit peu de ta tour d'ivoire, rentre sur le terrain. Et dans notre monde, Minago Shel Olam, qu'est-ce que l'homme fait d'abord ? La maison ou les meubles ? La maison. Le contenant avant le contenu. Et tu dois tenir compte du fait que dans ce monde, l'homme n'a pas ta sensibilité. Tu ne peux pas dans ce monde dire que étudier la Torah protège plus le peuple juif que de se battre avec une arme. Tu ne peux pas le dire parce que même si c'est vrai, parce que c'est oui vrai, même si c'est vrai, le monde ne peut pas le comprendre. Or, si tu parles ce langage, les Juifs ne vont pas te suivre. Et ils vont tous abandonner la Torah. Parle le langage du monde. Dans ce monde, on fait la guerre avec un fusil, pas avec une Gemara. Donc, automatiquement, parle le langage de ce monde. Donc, construis d'abord le contenant, c'est-à-dire, construis d'abord une nation solide, avec une terre, avec des institutions, avec une armée, avec une économie, des gens qui travaillent, et après, dedans, mets-y la Torah. Mais tu ne peux pas commencer par la Torah, c'est impossible. Qu'est-ce qu'a fait le maître du monde ? Il a d'abord créé le corps de Adam, et quand le corps d'Adam était terminé, qu'est-ce qu'il a fait ? Il y a mis l'âme. Ça, c'est le langage de la Malchut. Je vous apprends rien de nouveau, ça fait 100 ans qu'on n'arrête pas de le répéter.
La création elle-même.
La création aussi, d'abord 6 jours de semaine, bravo, et après seulement le Shabbat. Et, vaillere, vaillivoker, d'abord l'obscurité, après la lumière. Seulement le problème, c'est que comme Moshe incarne lui la Torah à l'état pur, et comme Moshe en vérité a raison que l'essentiel c'est la Torah, là où Moshe se trompe, c'est qu'il ne comprend pas que même si c'est vrai, ça ne se dit pas comme ça. Il faut être capable de le dire d'une manière que le monde puisse le comprendre. Et le monde n'acceptera jamais que la force d'Israël, c'est la Torah plus que l'action sur le terrain. C'est impossible. Ou je vais le dire d'une autre manière. Si Israël voit que tout le monde est impliqué sur le terrain, Alors petit à petit, Israël commencera à respecter et à aimer aussi la Torah, jusqu'au point où Israël comprendra ce qui est évident, évidemment vrai, que finalement la seule vraie force d'Israël, c'est la Torah. Mais Betzalel enseigne à Moshe que pour amener le peuple à la Torah, il faut d'abord passer par l'extériorité, par le monde extérieur. On ne peut pas arriver directement à l'intériorité. Moshe lui dit, waouh, mais c'est vrai, t'as raison. Hachem m'a dit aussi qu'il fallait commencer par la maison. Finalement, c'est moi qui ai choisi de dire qu'il fallait commencer par l'arche. Mais je comprends, il m'a mis une peau de banane. Il voulait m'apprendre ce que tu es, toi, Betzalel, fils de Yehuda. Toi, tu es la malroute. Tu étais donc dans l'ombre d'Hachem. Ça veut dire quoi? Pour avoir la lumière dans ce monde, il faut parfois être capable d'être un petit peu dans l'ombre. Si tu veux que tout Israël étudie la Torah, il faut d'abord passer par un tout Israël qui est impliqué matériellement, concrètement, dans ce monde. L'ombre, c'est être impliqué dans ce monde. La lumière, c'est être à la yeshiva en train d'étudier. Moshe dit tout le monde à l'étude. Betzalel lui répond, mais non, si tu veux un jour que ton peuple respecte la Torah, amène-le d'abord dans l'ombre de l'extériorité et finalement, ne t'inquiète pas, comme sa nature est attachée au maître du monde, de l'extériorité, il arrivera à l'intériorité. Voilà le magnifique message que nous livre cette paracha. Voilà une paracha tellement rébarbative qui cache une fois de plus le plus grand de tous les secrets qui jusqu'à aujourd'hui, par la grande majorité de ceux qui étudient la Torah, n'est pas encore compris. C'est Betzalel qui avait raison, c'est pas Moshe. On fait de l'ombre pour recevoir la lumière, et pas le contraire. On n'a pas le droit de tenir dans ce monde un langage que le monde ne peut pas entendre. Le monde n'acceptera jamais qu'on lui dise que l'arme spirituelle est la plus importante de toutes. Prouve-le-moi! Et tu ne peux le prouver que si tu parles mon langage sur le terrain. Parce que quand je vais voir sur le terrain que moi je suis un soldat qui n'étudie pas la Torah, qui ne fait rien, et que moi, après une mission, qu'est-ce que je fais? Je m'allonge sur mon lit et puis je commence à écouter de la musique, n'importe quoi, peu importe, ou à regarder des photos de filles ou je ne sais quoi, ou à parler de honnerie avec mes voisins de chambre. Et puis que je vois ce soldat religieux qui, lui, va faire mincha, va faire arvitz, il a un petit moment, il étudie un petit peu, il fait une mishnah, il fait des teilim. Lui, il regarde pas de photos de femmes nues ou de je ne sais quoi. Il dit, waouh, je comprends pas, il fait tout comme moi, mais pourtant il n'est pas comme moi. Quoi, c'est incroyable. Oh, ça m'intéresse, ça. Je vais commencer à me renseigner, etc. Là, tu peux le ramener. Parce que tu es sur son terrain et tu lui montres sur son terrain ce que c'est la Torah d'Israël. Et ça, comme ça, tu le ramènes. Mais si tu restes dans ta yeshiva, il ne va pas te voir. Au contraire, il va te traiter de traître et de lâche. Comment tu vas le ramener? Voilà ce qu'est Betzalel. Maintenant, attention, mes amis. On va aller un petit peu plus loin. Pourquoi il s'appelle Ben Hur? Pourquoi? Qui était Hur? Hur, c'est le fils de Myriam. On sait très peu de choses de Hur, sauf une seule chose. C'est que la seule fois où on en parle, il s'est fait égorger.
Le veau d'or.
C'est lui, d'après notre tradition, qui, lorsqu'il a vu les chefs, les leaders du veau d'or, qui n'étaient pas des juifs, c'est tous mes derniers cours, les infiltrés, les fameux infiltrés et rêvraves que Pharaon avait mis pour faire tomber Israël,
les enfants de Balak,
lorsqu'il les enfants de Bilam, etc. Lorsqu'il les a vus, tout de suite, il est venu à leur rencontre et a dit, non, non, vous me passez dessus, mais il n'y aura pas de veau d'or. Ils sont passés dessus et il y a eu le veau d'or. Il est mort comme ça. Le Zohar dit, au moment où ils l'ont égorgé, une voix du ciel est sortie et a dit, c'est de tes enfants que sortira celui qui sera le constructeur de ma lumière dans le monde. C'est-à-dire que d'après le Midrash et le Zohar, c'est pas seulement le Zohar, c'est le Midrash aussi dans Midrash Rabba, d'après le Midrash, la récompense, entre parenthèses, de Hur, pour cette Messirut Nefesh, pour ce don de soi qu'il a fait, c'est que ce sont de ses entrailles qu'est sorti celui qui a été choisi. Mais ça, c'est juste, mais c'est le pshat. Essayons de comprendre plus profondément le lien qui existe entre la Messirut Nefesh de Hur et l'élection, le choix fait par Hachem de choisir précisément le petit-fils de Hur pour construire le Mishkan. Ici, on apprend quelque chose d'extraordinaire, mais pour que vous le compreniez mieux, je reviens maintenant, d'une manière encore beaucoup plus dangereuse, sur la question que j'ai posée. J'ai dit, je laisse de côté. Bezalel dit, il faut suivre le minhag du monde. Le monde ne peut pas accepter que ceux qui soient assis à étudier toute la journée sont aussi importants que ceux qui se battent au front. On ne peut pas, on n'a pas le droit, ce n'est pas le minhag du monde. Tu dois parler le langage du monde. Il avait raison. Mais j'ai commencé à montrer que ce qu'il dit est très dangereux. Parce que où ça s'arrête? Mes amis, aujourd'hui on vit à New York. Chacun d'entre nous vit à une demi-heure en voiture de la première synagogue parce que les villes sont très grandes. Il faut quand même s'adapter un petit peu aux besoins de ce monde. Et dans les besoins de ce monde, on ne peut plus aller à pied à la synagogue. Et si on prend la voiture dans le but d'aller prier dans une synagogue, je ne vois pas où est le problème. C'est quand même pour aller prier dans une synagogue le samedi. Mes amis, il faudrait quand même se mettre un petit peu à la mesure du monde. Le monde a changé. Dans le temps, chacun vivait dans une petite cabane. Il ouvrait la porte, il était dans son salon. Enfin, dans la chambre, dans la pièce qui lui servait de salon, de cuisine, de salle de bain et de tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, moi, je vis à Manhattan. Je vis au 35e étage. J'aimerais bien voir comment qu'il est possible de monter et de descendre les escaliers le samedi. Le monde a changé. Mettez-vous un petit peu à la mesure du monde, les amis. Et puis les amis, écoutez, je veux dire, ça fait 2000 ans qu'on vit au milieu des nations, puis après tout, je veux dire, les Christines sont aussi belles que nos Sarahs, et si on se met avec une Christine et qu'elle n'est pas antisémite, je vois pas quel est le problème. Et si j'écite que mes enfants sont juifs parce que je les circoncis, ils iront à Talmud Torah, et alors, ça gêne qui, après tout? Est-ce qu'elles sont jolies, les Christines de mon pays? Donc il faut s'adapter, les gars. Un point, c'est tout. Et ben, où ça s'arrête le discours de Bezalel? Mais c'est tout le discours de la réforme. Mina gauche et l'olam. Et puis les cochons, c'était dangereux dans le désert, il n'y avait pas de frigidaire, mais aujourd'hui il y a des frigidaires, c'est plus dangereux un cochon. Il faut s'adapter les gars, Minago chez l'Olam. Et puis si deux hommes veulent se marier aujourd'hui, on pourra toujours trouver un rabbin à San Francisco qui les mariera. Il y en a plein à San Francisco, ils sont comme eux d'ailleurs qui les marient. Je dirais évidemment. Et il faut Minago chez l'Olam, le monde a changé les gars. Minago chez l'Olam, oui, on a des photos comme ça d'un mariage de deux hommes sous la roupa, bien sûr. Vous savez qui les marie, une femme? Rabbin. Je vous promets, c'est vrai. Elle était sur YouTube pendant sur je sais plus quoi, pendant longtemps. Une femme, rabbin, qui marie deux hommes à San Francisco, ça peut être que là-bas. Mais oui, mais ils ont raison, c'est Bezalel, Minago chez l'Olam, mais ils ont raison, si là-bas tout le monde est comme ça, donc effectivement, Minago chez l'Olam. Donc où tu l'arrêtes? Il est fou, Bezalel, arrêtez-le, il est dangereux. Où tu l'arrêtes? Mais non, Ben Hur n'a le droit de parler de Minago chez l'Olam que celui qui sent la moindre hésitation est prêt à mourir pour la Torah d'Israël. Parce que quand lui parle de Minago chez l'Olam, il n'y a pas de risque qu'il va nous jouer le coup à la Mendelssohn, c'est-à-dire à la réforme. Non, il ne cherche pas la facilité, la preuve, regardez, il est issu d'une Messirut Nefesh. Il porte ça dans son ADN, il est prêt à mourir à n'importe quel moment pour le maître du monde. Vous en connaissez beaucoup, vous, des réformés qui sont prêts à mourir pour le maître du monde, pour la Torah du maître du monde? Ben non, au contraire, puisqu'ils ne font que alléger, pour que ce soit le plus facile. Non! Ben Hur! Et qu'est-ce qui s'est passé? C'était quoi Hur? Regardez la différence entre Hur et malheureusement même Aaron. Les deux voient la même chose. Le Erev Rav arrive, les sorciers arrivent, on va faire un veau! D'accord. Comme je l'ai dit la dernière fois, Aaron se retourne vers Hur et lui dit, oh, les vaches, il va le faire un veau, très bien. Aaron, lui, il commence tout de suite. Comme un juif sait le faire. Ah oui, dans la tête, le juif, il est très fort. Oui, mais, c'est-à-dire que quoi? Qu'est-ce qu'a été le pile-poule de Aaron? Très fort en étude de la Gemara. Qu'est-ce qu'a été le pile-poule de Aaron? C'est quoi? Si je m'oppose et qu'il me tue, ça sera une faute plus grave que si je les laisse faire. D'accord? Même avec, il avait même l'accent, etc. Quoi, quelques mots d'idiche pour Vécham. Et donc, si je les laisse faire, donc ils vont me tuer. S'ils me tuent, cette faute-là est considérée comme la faute la plus grave qu'un peuple puisse faire. Ils n'auront pas de kapara, ils n'auront pas de tikkun. Donc, je vais essayer de gagner du temps, parce que je sais que Moshe va revenir. Et ta 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 ta, et paf! Il a été, d'une certaine manière, les sabots fendus de la faute du veau d'or. Très bien. Hur, lui, alors lui, il a, lui, c'est pas la philo, pas de pile-poule, rien du tout. Il dit, attends, vous voulez faire le veau d'or? Non, ça va pas, non. Eh ben, tac! et non tué. Réfléchis pas. Un petit écervelé, un petit... Hachem lui dit, c'est lui qui a ma lumière. Avec le mal, on négocie pas. On est prêt à mourir. On négocie pas avec le mal. Aaron s'est complètement trompé. On ne négocie pas avec le mal. D'accord. On peut très bien comprendre. Qu'est-ce qui peut pousser un homme à négocier? Si je ne leur donne pas la moitié de Jérusalem, si je ne suis pas prêt à enlever des Yishuvim po, des Yishuvim là, si on ne donne pas la Judée et la Samarie, et pourquoi pas aussi ma femme, ma fille, ma soeur, ma grand-mère, surtout ma belle-mère, etc. Je me dirais, évidemment, donc ça sera pire, on n'aura plus rien. Donc il vaut mieux donner un petit peu, ça c'est Aaron. Rorivé dit, attends, mais vous négociez, mais ça veut dire quoi? On baisse la tête devant les pressions? On fonce, et alors on se fait descendre, peu importe. Mieux vaut mourir juif que vivre à genoux. Ça, c'est la malroute, ça, c'est Yehuda. Pas de négociation. On dit, mais attends, mais c'est dangereux, on s'en fout. Mais c'est route Nefesh. Il n'y a pas. On ne négocie pas lorsque le but de la négociation, c'est de me faire baisser la tête et lécher les bottes. Attends, je crois que je vais partager mon épouse. Mais vous imaginez, un jour dans ma chambre et le lendemain dans la sienne. Mais attends, mais Jérusalem, c'est mon épouse. Attends quoi? N'importe qui va coucher avec, et après elle va revenir chez moi, mais j'oserais même plus la regarder. Comment c'est possible? On négocie pas. Mais attends, c'est dangereux, ils sont tous contre toi, ils vont te couper le cou, mais qu'est-ce qu'il fait pour? Il y va tout seul contre 100 000. Mais qui me coupe le cou, je m'en fous! Comment je pourrais me supporter après une négociation où j'ai vendu ma mère, j'ai vendu mon épouse? Je veux pas. Tuez-moi, mais mon épouse, je vous la donnerai pas. Voilà. Aaron, non. Aaron, jusqu'à la fin de sa vie et jusqu'à aujourd'hui, c'est marqué en lettres d'éternité dans la Torah que Hachem lui en a voulu. D'avoir fait un pile-poule pour négocier ce qui ne se négocie pas. Hur, d'où il a appris ça? Il le tenait de sa mère. Sa mère, c'est Myriam. Myriam, pareil, elle négocie pas. Son père à Myriam, Amram. Lui aussi, grand négociateur. Ah, souvent, les maîtres d'Israël, souvent, sont des grands négociateurs. Oui, mais vous comprenez, les territoires, c'est moins important que la vie, parce que la vie est au-dessus de tout, etc. Très bien. Amram, avec tout le respect qu'on lui doit, il a choisi la vie, il a donné les territoires. Ce n'est que la forme qui change, le fond est le même. Quel était le problème d'Amram? Si on continue à avoir des enfants, à ce moment-là, on va continuer à, finalement, à donner la possibilité de les tuer. Et comme le devoir, je fais aussi avec l'accent, comme le devoir de se marier, d'avoir des enfants n'est qu'une mitzvah importante, c'est vrai, mais une mitzvah de la Torah, et que d'un autre côté, pikuar nefesh doré et takol, le fameux pikuar nefesh des territoires à négocier, à rendre ou à prendre, ou à que je sais quoi. Pikuar nefesh! Au nom de pikuar nefesh, au nom de la vie qui est au-dessus de tout, on ne se marie plus, il n'y aura plus d'enfants, pikuar nefesh! La petite Myriam, elle vient, dit, papa, non, mais attends, ça va pas sortir, je ne sais pas, moi, il y aurait des clips poulim. Ça veut dire quoi? Là, attends, tu baisses la tête, tu lèches les bottes, mais c'est exactement ce qu'ils veulent. Ils n'aiment les juifs et quand ils baissent la tête. Tu crois, mais ils s'en foutent de tes enfants. Ce qu'ils veulent, c'est que tu baisses la tête. C'est tout ce qu'ils veulent. Et dire, on négocie pas. Eh bien, qu'ils les prennent, les enfants. De toute façon, t'es encore plus cruel qu'eux. Parce que toi, en vérité, t'enlèves les garçons et les filles. Dans ta négociation, tu vas tout perdre. Parce que tu crois qu'ils vont s'arrêter à la Judée-Saint-Marie. Mais demain, ça va être Baka. Après, ça va être Guilo. Après, ça va être Ahoma. Après, ça va être Pisgat Zev. Et puis après, ça va être Ramat Aviv. Oui, Ramat Aviv aussi. Bien sûr. Qu'est-ce qui va nous rester? L'eau pour sécher nos larmes.
Et si vous allez se faire tuer, qu'est-ce qui va s'arriver?
Mais c'est exactement ça. Mais c'est exactement. Mais c'est exactement. Mais non, regarde. C'est exactement ce que Myriam a proposé. Parce que, une fois qu'il a repris sa femme, le papa, Amram, le décret s'est arrêté, il a été plus pire que jamais. Le jour où Moshe est né, Des centaines de milliers d'enfants ont été jetés dans le Nil parce que les astrologues voyaient que ce jour-là, le Moshiach doit, le libérateur doit naître. Ce qui veut dire qu'à cause de Myriam, des centaines de milliers d'enfants juifs sont morts, y compris ceux qu'on emmurait. Et d'après notre tradition, ce fou de parent qui égorgeait 250 enfants le matin et 250 enfants le soir, je sais pas si c'est une image ou si c'est vrai, peu importe, c'est pour nous montrer sa cruauté, et qui se baignait dans leur sang. Tout ça à cause de cette folle de Myriam. Elle a gagné ou elle a eu tort? Elle a gagné, on est là aujourd'hui. Mais si on avait suivi Amram, il n'y aurait plus de peuple juif depuis longtemps. Le problème n'est pas d'échapper au coup, le problème c'est d'échapper à la disparition. Et le choix qu'a fait Myriam est le choix de l'éternité. Nous ne sommes pas sur terre pour éviter les coups. Jusqu'à la délivrance finale, Yaakov ne cessera de prendre des coups. Yaakov a été frappé par l'ange de Esav et il boite et il a mal et il hurle et il pleure et il enterre ses femmes et ses enfants. Mais Yaakov traverse l'histoire. Esav, dans un jour, on n'en parlera plus, c'est fini. On tourne la page et on tire la chasse. C'est le choix de l'éternité. C'est pas le choix de la vie tranquille. Rour ne choisit pas la vie tranquille. Il meurt. Mais son petit-fils construit le temple, qui est la lumière éternelle d'Israël. Myriam n'a pas choisi la facilité. Elle porte sur ses épaules le massacre de centaines de milliers d'enfants. Mais grâce à elle, notre peuple est là aujourd'hui à Jérusalem. Et pas grâce à son père Amram. Si on avait suivi son père, où on serait? Et pareil pour aujourd'hui. Ceux qui sont prêts à négocier, bien évidemment que leurs intentions sont bonnes. À Amram, son intention était mauvaise, qu'à Dieu ne plaise. À Aaron, son intention était mauvaise, qu'à Dieu ne plaise. Nos politiciens, leur intention est mauvaise, qu'à Dieu ne plaise. Mais bien sûr qu'ils sont pleins de bonnes intentions. Le problème, c'est qu'ils ne connaissent pas l'histoire d'Israël. Et que dans leur volonté de nous sauver aujourd'hui, ils sont en train de creuser nos tombes de demain. Heureusement, Hachem ne laissera pas faire. C'est évident que tout le monde est plein de bonnes intentions. Amram était le Gadol Ador. Et ceux qui ont dit dans les années 90-91 qu'il faut signer les accords d'Oslo parce que la vie est plus importante que les territoires.
Oui.
Combien de bus ont sauté à cause de cette décision-là? Ils étaient remplis de mauvaises intentions, qu'à Dieu ne plaise. C'est les Gdolé Ador. Personne ne peut aimer les Juifs autant que eux les aiment. Et pourtant, leur décision était du type Amram. Heureusement qu'eux-mêmes, après, ont reconnu que c'était plus actuel. Parce que sinon, il n'y aurait plus de peuple juif. Ça ne serait pas des bus qui auraient sauté, c'est des villes entières qui auraient sauté si on n'avait pas fait un petit peu marche arrière. Évidemment. Donc, quand on est un Ben Hur, un Ben Myriam, et qu'on est de la tribu de Yehuda, pareil, c'est quoi la tribu de Yehuda? Narshon Ben Aminadav. On est devant la mer. Tout le monde commence à négocier. Moshe commence à négocier avec Hachem, il prie, c'est un religieux lui, évidemment. Les petits jeunes et cervelés qui ont fait un petit peu de sport de combat et qui ont des muscles, ils disent on va se battre, très bien. Les lâches, ils disent bon, on va jeter dans l'eau, pas pour l'ouvrir, pour jeter. Les pires que les lâches, ils disent bon, on va se rendre, on va réduire des esclaves. Narshon, il voit ça, il dit mais attendez, mais arrêtez, ça veut dire quoi ça? On continue, le projet ne s'arrête pas, on fonce. Tout le monde lui dit, mais attends, mais t'es malade, il y a de l'eau. Vous voyez de l'eau, moi je vois rien. Hachem m'a dit, on y va, on y va. Ils peuvent monter, descendre, il n'y a rien. Hachem nous a ramenés sur notre terre, c'est pour nous la redonner d'un bout à l'autre. Ah, des océans entiers se dressent contre nous. La Malchou dit, je ne vois rien, je fonce. C'est elle qui gagne, le problème c'est que malheureusement... Les époques ne sont pas toujours les mêmes. Aujourd'hui, s'il y a un seul Narshon Ben Aminadav, il va se noyer. Vous savez pourquoi? Parce que personne ne va le suivre. Au contraire, ils l'arrêteront, ils le mettront en prison avant même que... Voilà. Mais ça, c'est la Malchut. Alors évidemment, on parle de la Malchut comme une chose... il était une fois l'histoire de la Malchut. La Malchut a disparu de notre peuple depuis 2000 ans. La Malchut est malade, comme on le voit dans Shir HaShirim. Cette fameuse femme qui se plaint qu'elle est malade, qu'elle supplie son prince charmant de venir la chercher, de la guérir, c'est qui, dit le Zohar? C'est la Malchoute d'Israël. C'est la seule chose finalement qu'on a perdue en Galoute. La Torah, on ne l'a pas perdue. On a produit les plus grands géants de notre histoire précisément en Galoute. Notre peuple, on ne l'a pas perdu, il est toujours là. Même notre terre, on ne l'a pas perdue. Jérusalem, on ne l'a pas perdue. La seule chose qu'on a perdue en Galoute, c'est quoi? C'est la Malchoute. La force de ne pas baisser la tête. La force de ne pas baisser la tête, même lorsque l'on sait que ça nous met en danger réel, certain, immédiat. C'est le courage qu'a eu Myriam, c'est pour ça qu'elle est devenue l'épouse d'un roi. C'est le courage qu'a eu Hur. C'est le courage qu'a eu Nachshon ben Aminadab. C'est le courage de David contre Goliath. Ça sera le courage du Mashiach contre l'humanité tout entière. C'est ça la malroute d'Israël. On ne négocie pas. Ah, c'est dangereux ? On ne négocie pas. Ah, mais à cause de toi, on ne négocie pas. Contre les morts dont tu es responsable, on ne négocie pas. Pourquoi ? Un juif ne baisse pas la tête. Ça, c'est la malroute d'Israël. Les questions. Allez, bombardement.
Non, pas des bombardements.
Pilonnage.
Oui.
Vous savez, je vous ai jamais dit que sous mon chapeau qui ne me quitte jamais, j'ai en vérité un blindage. C'est le secret du chapeau.
Vous avez pris ici, vous avez pris la position de votre habit, et certainement c'est normal.
Je l'ai même pas cité. J'ai pris la position de la Torah.
J'ai pas cité son nom.
Ça c'est vache.
Moi j'ai pas cité son nom.
Mais c'est vache parce que je l'ai même pas apporté une fois. J'ai parlé que de la Torah.
Moi j'ai pas dit. Moi j'ai dit que vous avez pris la position de votre rav. J'ai pas dit que vous étiez contre l'autre. Que Dieu ait du pitié de les âmes. Bon, ça c'est la première petite remarque. Mais vous avez dit que si on tue, Aaron a pris, si on le tue lui-même, il va avoir un décret que le peuple juif, il va disparaître de la circulation, comme il y a eu avec le prophète Zechariah. Alors, pourquoi il a raison? Pourquoi il a eu... J'arrive pas à comprendre, de dire, bon, si je vais me disparaître totalement, il n'y a pas rien qui se reste, ou j'essaie de négocier, c'est comme on a dit à Shaoul. Il faut tuer Amalek carrément, il a laissé un. Ben voilà la preuve qu'il a grandi, Amalek. Tandis que le peuple juif, si c'était le cas d'Aaron, il n'y aura pas un seul peuple pour continuer avec cette Torah-là.
Alors, dans vos deux questions, vous m'avez donné les deux réponses. Première question, j'ai parlé au nom de mon rabbi. Je ne l'ai pas rapporté une seule fois. Je n'ai fait qu'expliquer Rashi, Balatourim, les versets, etc. Même si le rabbi n'avait jamais existé, la Torah, elle, a existé bien avant lui, existe encore aujourd'hui. C'est elle que j'ai expliquée et pas l'avis du rabbi de Lubavitch. Deuxième chose, le si, justement, c'est ça tout le problème. Notre émouna, notre foi, et là vous touchez l'essence même, si vous voulez, de l'âme juive. La foi profonde authentique du juif, celui dont je parle sans arrêt, c'est qu'il sait avec une certitude absolue, sans la moindre faille, il sait que le peuple juif ne disparaîtra jamais. Les seuls qui peuvent disparaître, c'est des individus, mais jamais le peuple juif. Fort de cette conviction, il n'a pas peur de se mettre en danger ou de mettre des milliers d'autres en danger. On est à la veille de Pourim. Mais qu'est-ce qu'a fait Mordechai, Ribono shel Olam, ce fou furieux, mais qu'on l'arrête, qu'on le pende. Il vivrait aujourd'hui, tout le monde lui tirerait dessus. Il a mis toute une nation en danger parce que ce crétin-là se prosterne pas devant un homme tout puissant et monstrueux. Tu mets tout un peuple en danger à cause de tes folies orgueilleuses, de pas te prosterner. Mais qu'est-ce que ça peut te faire de te prosterner? C'est pas une idole. Il demande qu'on le respecte. On a le droit de se prosterner devant un homme, un fou qui demande qu'on le respecte. Pourquoi tu l'as pas fait? Parce que Mordechai sait. Il y a le ponctuel et il y a le à long terme. Un vrai maître, il voit loin. Il sait que si tu te prosternes là, c'est fini. Parce que c'est pas ça qu'il veut. C'est tout. Le maître est capable de déceler ce qui se cache derrière le masque. C'est ça qu'on porte des masques à Pourim. Je reviens maintenant à ce que j'explique. Tous ces personnages, Myriam, Hur, pourquoi ont-ils fait le choix de la grande catastrophe immédiate pour avoir le salut à long terme? Parce que Myriam a entraîné directement, vous ne l'avez peut-être jamais entendu, mais vérifiez dans les textes. Myriam a entraîné par sa décision directement la mort, le massacre de centaines de milliers d'enfants juifs. Mais de quel droit elle peut prendre sur ses petites épaules une telle décision? Parce que son souci, c'est l'éternité du peuple juif. Et elle sait, depuis que Yaakov a été frappé à la hanche, que personne, jusqu'à la délivrance finale, ne pourra éviter qu'Israël prenne des coups. Le problème, c'est d'éviter qu'ils ne disparaissent. Et donc, le si est impossible. Il y aura toujours quelque chose qui fera, grâce à ceux qui sont capables de Messirut Nefesh, de don de soi, il y aura toujours le miracle de la dernière minute qui fera que ça passera. Et ça ne s'arrêtera pas. C'est exactement le symbole de Nachshon ben Aminadav. Si Nachshon ben Aminadav avait écouté Nathan avant de rentrer dans l'eau, Nathan lui aurait dit, pas Nathan en tant que tel, mais l'argument, « Mais attends, tu es le prince de la tribu la plus importante. Si tu meurs, qui va diriger cette tribu-là ? Pikouar Nefesh, la vie est au-dessus de tout. Au moins, mets-toi du côté de Moshe pour prier, ou mets-toi du côté, si déjà tu veux faire quelque chose, prends la tête de tous ces jeunes qui veulent se battre et dirige-les dans le combat. Mais ne te suicide pas. » Pourquoi Nachshon fait un acte stupide quand on ne sait pas encore ce qui va se passer? Parce que Nachshon sait une chose. La survie d'Israël dépend de sa capacité de ne jamais négocier lorsque derrière l'intention se cache l'humiliation d'Israël et finalement sa disparition totale à moyen très long terme. Parce que c'est ce qu'ils veulent. Est-ce qu'il y a un homme sur terre qui doute de véritables intentions de nos voisins? Est-ce qu'il y en a un seul qui doute de leurs véritables intentions? Non. Et donc, on ne peut pas jouer avec le feu. Si tu commences, tu ne sais pas où ça va s'arrêter. Tu rentres dans un principe que tu ne vas plus pouvoir contrôler parce que tu t'habitues à vivre la tête baissée. Et comme le juif a malheureusement une nature à en faire sa seconde nature, de vivre avec la tête baissée, le peuple juif est en danger s'il s'habitue trop vite à baisser la tête. Donc si Aaron s'était opposé, je sais que je vais vous énerver en répondant comme ça, mais je vais vous répondre, il y aurait eu un phénomène inattendu au dernier moment qui fait qu'il ne l'aurait pas tué. La mer se serait ouverte. Mais tout le courage d'Aaron aurait te dire « Je ne réfléchis pas, je ne sais pas, je ne comprends pas, je vais à la catastrophe, mais je ne négocie pas, on ne fait pas l'idolâtrie dans le peuple que l'on m'a confié. Moshe m'a confié ce peuple, je vais le laisser être idolâtre alors qu'on vient recevoir la Torah. Ils vont me tuer, je m'en fous, c'est pas mon problème. Je ne négocie pas. » Il y aurait été, il aurait dit « Vas-y, tirez. » Ils n'auraient pas tiré. Ils n'auraient pas tiré. Quand le Rayat, le beau-père du Rabbi, était dans les cachots du KGB, et qu'ils lui ont pointé un revolver sur leur tête, sur sa tête, et ils lui ont dit, où tu me dis, où sont cachées toutes les écoles, tous les mikvés, qui sont tous les shoratim de Leningrad, où on te tire une balle dans la tête, il les a regardés droit dans les yeux, il a dit, mais qu'est-ce que vous croyez? Ce petit joujou ne peut impressionner que celui qui a plusieurs dieux et un seul monde. Mais moi j'ai un dieu et plusieurs mondes, et vous ne m'impressionnez pas. Ils n'ont pas tiré. Mais ça, ils ne pouvaient pas le savoir avant. Et quand le rabbi de Tzand, sous la botte du nazi à Auschwitz, qui lui dit « Qui est le peuple élu maintenant ?» et qu'il lui répond « C'est celui qui est sous la botte. » On a tous vu quand même la liste Schindler, on a vu le pianiste, on en a vu des films sur la Shoah. Vous répondez à un nazi « C'est moi le peuple élu ?» Il n'a pas tiré le nazi. Il l'a lâché. La mer s'est ouverte. Quand tu baisses pas la tête, la mer s'ouvre. Où elle s'ouvre suffisamment souvent pour permettre à notre peuple de continuer. Elle se serait ouverte devant Aaron. Le problème, c'est qu'on a tellement peur de le faire qu'on se trouve mille raisons pour justifier, cacher comme une feuille de vigne, cacher notre nudité, cacher notre peur. Oui, question du chat.
Une question de M. Wayon qui évoque le fait qu'il ne se trouve pas tellement d'accord par rapport au fait que la situation elle a changé, elle est différente. Aujourd'hui, on est un pays, on a Israël, et tout le monde est prêt à foncer, sauf nos dirigeants.
Je ne suis pas forcément d'accord. Je suis par contre d'abord d'accord sur le fait que le problème, c'est plus les dirigeants que le peuple. Mais malgré tout, par souci d'honnêteté, je rajouterai ce que j'ai dit hier dans le séminaire Chai, qui est d'ailleurs sur le site exceptionnellement. J'ai rajouté hier qu'avant de juger trop méchamment nos dirigeants, on doit avoir un petit peu de, on pourrait dire, de sagesse ou d'humilité, et de se dire qu'eux-mêmes sont soumis à de telles pressions, eux-mêmes voient ce que nous ne voyons pas, dans le sens qu'ils savent à quel point la situation est catastrophique. Et de ce qu'ils sont prêts à donner, on imagine quelles sont les pressions. Parce que nous, on ne nous parle pas le langage qu'eux entendent. Parce que chez nous, c'est dilué, c'est de l'homéopathie. Parce que sinon, on ne pourrait pas supporter. Mais nos dirigeants, ils sont face au monstre. Et le monstre, croyez-moi, il leur parle le langage très clair. Ah, vous ne voulez pas ? D'accord ? C'est la fin du pays. Voilà, c'est la fin. 10 ans, il n'y a plus rien. On vous lâche, on vous crève, on vous explose. C'est comme ça qu'ils parlent, attention, hein. Ah oui, comme ça. Pas quand ils sont assis devant les caméras, mais dans les coulisses. Donc, je comprends nos dirigeants qui disent, bah, dans une situation où on va tout perdre, mieux vaut les calmer en jetant la Judée Samarie. D'accord. J'ai donné l'exemple hier dans le séminaire de la situation des chefs de ghetto qui se sont comportés souvent d'une manière crapuleuse. Mais il faut les comprendre aussi, les chefs de ghetto. Les Allemands venaient, ils disaient, écoutez, de toute façon, vous allez tous crever. D'accord ? Et puis d'abord, dès qu'ils rentraient dans la pièce, d'abord, ils tuaient 3-4 personnes au hasard pour mettre l'ambiance, comme ça que ça se passait, puis après, ils négociaient avec ceux sur lesquels ils n'avaient pas encore tiré. Bon, maintenant, asseyez-vous. Alors, ou vous nous donnez la liste de tous les vieux, ou on flingue tout le monde. J'aimerais pas être à leur place, parce que qu'est-ce qu'ils se disent ? Bon, de toute façon, les vieux, ils vont crever. Si on donne les vieux, peut-être qu'entre-temps, les Russes vont arriver et qu'on va sauver les jeunes. Et c'est ça, Aaron ! Oui, mais ta. J'aimerais pas être à leur place, parce que eux, ils étaient là quand les Allemands sont rentrés. Ils ont dit, à 10 heures, on doit vous parler. Tout le comité est là. Ils sont tous assis, tous les Juifs sont là, les Boches rentrent, ta, il en reste 5. Maintenant, on va parler. Ça, nous, on n'a pas vu. Donc, quand après, ils vont donner la liste des vieux, on va dire, ouais, les monstres, collabos, machin. C'est vrai, c'est des monstres et des collabos, peu importe. C'est pas vraiment ce que je pense. Mais d'un autre côté, on était face à leur pression, nous. Nos dirigeants vivent aujourd'hui exactement la même chose. C'est difficile à croire, mais je vous garantis que c'est la même chose. Et de temps en temps, pour confirmer ce que je dis, on nous lâche des brides. Je ferai tout pour qu'il n'y ait pas d'embargo. Ça veut dire que nous, ils nous parlent d'embargo. Imaginez-vous ce qui se cache derrière. Si nous, on entend le mot embargo, eux, ils entendent déjà Troisième Guerre mondiale, nos dirigeants. Donc, je peux comprendre du peu que nous, on entend ce que eux entendent directement. Donc, je peux comprendre qu'ils pètent les plombs et qu'ils sont prêts à donner leur grand-mère. Je ne les justifie pas. Je dis simplement qu'on n'est pas à leur place pour les juger sans pitié. Parce qu'on n'est pas à leur place. Donc, encore une fois, je ne pense pas que tout le peuple est prêt à être un Khour ou un Nachshon Ben Aminadav, car c'est évident que une grande partie des Israéliens pensent très très sincèrement que si on négociait, on aurait enfin la paix. Et donc, je ne pense pas qu'il n'y a que des Nachshon Ben Aminadav dans ce pays. Et quant à nos dirigeants, c'est beaucoup plus compliqué parce que eux, de toute façon, c'est plus un problème de négociation, c'est un problème de revolver sur la tempe. Et pas tout le monde a le courage d'un Rabbi de Tzantz ou un Rayatz de dire à son oppresseur, t'as qu'à tirer, je m'en fous. C'est pas donné à tout le monde de le dire. Oui.
Ben Khour, si vous avez remarqué, c'est un nom Ben Khour. On récite, quand on dit Ben Khour, בהגדה של פסח, בני חורין.
כן.
אז זה בן חור.
נכון.
חור, si on fait un petit peu de jeu de mots, c'est רוח. Il avait l'esprit.
L'inspiration.
L'inspiration, l'esprit.
Exact. Y a-t-il une autre question ? Oui.
Ben, dans ce cas-là, si on prend un peu l'idée que le gouvernement fait que faire des négociations, on n'est pas vraiment dans l'essence de ce qui est juif depuis 2000 ans, qu'on baisse la tête, que finalement on est tellement incrusté dans ce genre de mentalité, ce serait très difficile pour nous de s'en sortir. Parce qu'on a toujours, enfin depuis au moins, je dis au moins 500, 1000 ans, on a été toujours négociateur, baissé, on a toujours voulu donner. Donc comment on s'en sort de quelque chose comme ça ?
D'abord, peut-être c'est la raison pour laquelle le Talmud dit que « En ha-mashiach ba elak she-yitiahashu mina geoula » Le Mashiach ne viendra que lorsque plus personne n'y croira. Ça veut dire qu'on sera tombé à un tel niveau que finalement on se dira, bon, ben, c'est plus possible. Et à ce moment-là, il y aura le miracle de la délivrance.
Ouais, n'attends pas des miracles.
Et non, je ne parle pas d'un miracle des papillons qui sont en éléphant. Le miracle d'un homme, le plus grand des miracles, ce n'est pas ce qu'on croit. Le plus grand des miracles, c'est un homme, un juif courageux. Ça, c'est un miracle.
Ouais.
Courageux dans le contexte de l'histoire juive. Parce qu'évidemment qu'on a eu toute notre histoire, et aujourd'hui encore, n'en parlons pas des hommes d'un courage inimaginable à l'armée ou ailleurs. Je parle du courage qu'il nous manque depuis 2000 ans, seul contre le monde entier. Ce courage-là, qui n'a existé que très peu de fois dans notre histoire, David, Mordechai, et j'imagine encore un ou deux ou trois ou quatre ou cinq ou six ou mille, peu importe, mais ça reste une très petite minorité. Ce courage de dire, la situation, elle est ce qu'elle est, on est seul contre tous. Mais le premier, ça a été Abraham, sur lequel il est dit, « Echad aya Abraham ». Abraham l'unique, lui est seul contre tous. Donc on a commencé notre histoire avec ce courage. Le problème c'est que l'exil nous l'a fait disparaître. Et le miracle c'est qu'on le retrouve. C'est en ce sens là que je parle de miracle. En sens quelque chose qui n'est absolument pas naturel, auquel on n'est pas habitué. De voir se lever un dirigeant, parce que ça ne pourra pas être quelqu'un du peuple. Il faut forcément qu'il ait aussi un minimum de pouvoir. Quelqu'un qui arrivera à la tête de notre peuple, qui sera capable d'être suivi par notre peuple, alors qu'apparemment, il nous amène à une confrontation contre toutes les nations, dans un premier temps. Ça, c'est un véritable miracle, ça se produit dans notre peuple, mais c'est de cette manière-là que va se produire la délivrance. Je pense, d'une manière très pessimiste, je le dis avec beaucoup d'ironie, quand je dis pessimiste, que le maître du monde va nous aider à arriver à cette situation. Comment ? Il va amener notre peuple à un tel désespoir de se rendre compte que de toute façon, quoi qu'on fasse, on n'arrive plus à se mentir à nous-mêmes et à vouloir voir leur masque parce que le masque est tombé depuis longtemps. Quand on n'aura plus le choix, qu'on se rendra compte que de toute façon, ce qu'ils veulent, ce n'est pas la moitié de Jérusalem, mais c'est tous les Juifs dans la mer. Et quoi qu'on fasse, ils auront toujours une nouvelle revendication. Quand on va leur donner la moitié de Jérusalem, ils se rappelleront que Guilo est aussi à eux. Et quand on leur donnera Guilo, enfin ils commenceront d'abord par Achoma, et après qu'ils aient Guilo, Achoma, ils se rappelleront qu'aussi Pisgadzev, Givadzev, et après ils arriveront jusqu'à quoi ? Ramat Eshkol aussi. Et quand ils auront Ramat Eshkol, ils se diront, mais attends, mais Baka aussi, et Katamon n'en parlons pas. Et quand on se rendra compte, de toute façon, quoi qu'on fasse, ce qu'ils veulent, c'est notre peau. Alors je pense que dans ce contexte-là, Israël fera se lever le Mashiach, il leur dit, écoutez, de toute façon, qu'est-ce qu'on a à perdre? Si vous me suivez, c'est la catastrophe. Vous ne me suivez pas, c'est la catastrophe. Alors catastrophe pour catastrophe, au moins choisir la catastrophe de la dignité, suivez-moi. Et ils le suivront, et il n'y aura pas de catastrophe. Il y aura des coups, terribles, mais pas de catastrophe.
Moi, je ne suis pas d'accord.
Oui.
Le courage...
Olivier, ça fait longtemps que tu es content.
Le courage, c'est de ne pas renoncer à la paix, et à la vivre avec
elle. Il n'y a pas de paix.
C'est alléluia.
Ça aussi, l'éternité d'Israël.
C'est dommage que ce genre de réflexion ne se font pas un dimanche matin. Parce que tout son cœur, on dirait alléluia.
Il parle aussi de la paix, de vivre en paix en Israël.
Et pas de dispute. Pas de dispute, mes amis.
C'est des messages des prophètes d'Israël. Je suis désolé.
Non, monsieur.
Si.
Eh bien, j'accepte ton point de vue.
Ou
on ne doit pas renoncer à cet objectif de vivre en paix.
Quelqu'un a parlé ici de renoncer à l'objectif de vivre en paix.
Vous parlez que de guerre, vous parlez que de vision.
Non. Je peux parler maintenant? Très bien, sans me mettre en colère. La dernière fois, je me suis emporté avec Nathan, je le regrette.
Je demande pardon au public.
Maintenant, je ne m'emporte pas.
Qui n'est pas facile.
Je peux parler ? Très bien. Personne ici n'a parlé de guerre comme une fin en soi. Première chose. Deuxièmement, personne ici n'a dit que nous devons faire la guerre. J'ai parlé au contraire de prendre des coups. Attention. Je n'ai pas dit une seule fois nous devons nous battre contre eux. Hur ne s'est pas battu, il a été égorgé. Nachshon ne s'est pas battu, il était prêt à se noyer. J'ai parlé de Messirut Nefesh, d'être capable de donner sa vie pour ne pas baisser la tête. Et toi, tu comprends dans mes propos, guerre ? C'est intéressant. Est-ce que tu as écouté ce que j'ai dit ou tu as entendu ce que tu penses? Le problème. Non, mais bien évidemment. Mais bien évidemment, dans les ghettos, aussi sur le moment, quand arrivaient des rescapés de Treblinka ou des premiers camps de concentration, et qui réunissaient tout le monde et qui le racontaient, ils disaient, mais enfin bon, sans doute il a dû avoir un choc, il a pas supporté le voyage, soit il a toujours été quelqu'un un petit peu marginal, il doit être sans doute dans les cours du Rav Dinovitch, évidemment! Mais on sait ce qui s'est passé, la seule différence entre maintenant et alors, c'est que alors, on est maintenant après, et maintenant, on n'est pas encore après. Mais si on arrive à après en te suivant toi, un jour viendra où on racontera l'histoire d'aujourd'hui. Et de tous ceux qui ont dit, mais non, mais vous inquiétez pas, c'est pas si grave que ça. Après tout, qu'est-ce qu'il y a? C'est la guerre pour tout le monde, etc., etc. Maintenant, je reviens à ton accusation, qui est ce que tu as voulu comprendre. Je n'ai pas dit, il faut leur faire la guerre, j'ai parlé de Messirut Nefesh. Pas de faire la guerre. Je n'ai jamais évoqué le fait qu'on devait vivre éternellement en guerre, puisque au contraire, je n'ai parlé d'une situation qui, j'ai parlé de ceux qui amènent à la délivrance finale, donc à la paix, à l'amour, la fraternité entre tous les peuples. Ce que j'ai simplement dit, c'est que le moyen d'y arriver, Olivier, ce n'est certainement pas en leur faisant confiance et en baissant la tête. Ça, j'ai dit. Parce que si on continue à s'imaginer que eux sont sincères lorsqu'ils veulent notre bien, pour un Israël fort, auquel on donnera le droit à des frontières sûres. Et donc, vous imaginez une nation qui accepterait qu'on l'autorise à avoir des frontières sûres. Mais il n'y a que les Youpins pour un truc pareil. Attends, je préfère qu'ils me traitent de sale juif qu'ils me parlent comme ça. Au moins, quand ils me traitent de sale juif, je sais que j'ai en face de moi un... Mais quand ils me disent... On accepte que vous ayez des frontières sûres et défendables. Attends, tu me prends pour qui? Tu parlais comme ça, mais à des barbares, tu parlerais pas comme ça. Mais ça veut dire quoi? J'ai besoin de toi pour me défendre. J'ai besoin de ton autorisation pour avoir des frontières sûres et défendables. Mais avec les Youpins, on peut tout faire. Tu comprends? Pourquoi? Parce que les Youpins, c'est ton discours. Ça veut dire, mais non, mais faites leur confiance, ils veulent votre bien. Mais quand je comprends pas, mais au contraire, ils vous sortent du ghetto pour vous mettre dans des trains, pour vous déporter à l'est, à un endroit où vous pourrez travailler, parce que là, il n'y a pas de travail.
Mais il n'y a pas de confiance mutuelle. C'est pas simplement du côté des Juifs qu'on va...
Mais avoir... Olivier, ça fait 2000 ans.
Confiance en Israël.
Mais Olivier, ça fait 2000 ans qu'on leur fait confiance. Olivier, ça fait 2000 ans qu'on leur fait confiance. Tu veux que je cite un peu plus que ça encore? Et tu vois comment je veux te dire? Les premiers qui leur ont fait confiance, tu sais qui? C'était des juifs qui avaient un cœur tellement immense. Et attention, il n'y a rien d'ironique dans ce que je dis, je suis 100% sérieux. Mais je vais te surprendre quand je termine la phrase. Il y a eu un jour un groupe de juifs qui aimait tellement l'humanité tout entière. Ils avaient un cœur, un vrai cœur de juifs, débordant d'amour pour tous les hommes. Ils se sont dit, et si on apportait la bonne parole aussi aux autres, pourquoi on garderait toutes ces merveilles pour nous? Ils ont été vers les autres, mais ils leur ont dit, mais attention, hein, on vous fait confiance, c'est la parole d'Israël qu'on vous transmet. Ça veut dire, n'oubliez jamais quelle est la source vive à laquelle vous devez toujours vous abreuver. Eh bien, ces apôtres qui ont tellement fait confiance aux barbares et aux païens de l'époque, d'accord? Résultat, d'accord, Noël. C'est quoi Noël? Ah oui, Noël, c'est quoi? Ben, c'était une fête païenne dans toute l'Europe. D'accord.
C'est normal.
Christianisé.
Et etc. Et
d'accord. Mais si les apôtres avaient su qu'en faisant confiance dans toutes les promesses qu'ils recevaient, s'ils avaient su que ça coûterait la vie à des centaines de millions d'enfants juifs, brûlés, écartelés, violés, et transformés en esclaves, s'ils avaient su ça, tu penses qu'ils auraient à ce point fait confiance et qu'ils auraient suivi leur grand cœur? Ils auraient dit, ouais. Ça fait 2000 ans qu'on leur fait confiance. Attends, 60 ans après la Shoah, on va continuer à leur faire confiance. Olivier, tu veux leur faire confiance? Vas-y tout seul. Mais pas avec moi.
J'ai une question à vous poser, mais non, on revient au cours.
Oui.
Bah, d'abord, non, elle. En hébreu, c'est non, elle. En Elohim. En Elohim. Oui, salam.
Il a une question.
Attends, une seconde. Quand on a dit Bereshit bara Elohim et Hashamayim et Haaretz, ça c'est la bria. Après tous les restes de la création jusqu'à la création de l'homme, c'était Amira.
Oui.
Alors,
parole.
La parole, et après, Naasel Ano Adam, Betzelem, Dechaga, Betzelem, Ya Betzel.
Elle.
Aussi, ben, la Betzelem, elle aussi. Mm-hmm. Alors, la parole, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il considérait comme quoi? C'est Bria, c'est Asiya, c'est Tzira, c'est quoi?
La parole, c'est exactement le monde de l'obscurité. Pourquoi? Parce que quand tu parles et que tu n'as pas encore agi, tu transmets des notions, des idées que si elles ne rentrent pas dans le monde de l'action, le fameux ouri ou le vav, le point descend et ne reste pas en haut, c'est pas ori, c'est ouri, c'est faire descendre la lumière. La parole, justement, c'est encore le monde de l'obscurité, parce que tu dévoiles quelque chose qui est juste, mais d'un autre côté, concrètement, ça se vit comment? C'est pour ça que cette lumière qui a été créée par la parole, elle a été cachée après. Quand on arrive à la création de l'homme, la Torah ne dit plus que Dieu a parlé. Il a fait, il a agi.
Mais il a fait tout le monde avec la parole.
Non, sauf l'homme. L'homme, c'est
oui, Naasé. Sauf l'homme.
Donc pourquoi? Parce que tout le monde est dans l'obscurité et l'homme, lui, il est dans la lumière.
Alors, est-ce que je voulais savoir, c'est la parole elle-même, elle est considérée de quel olamot?
Obscurité.
Quel olamot, ça?
C'est le monde de la bria. La parole dont on parle ici, c'est le monde de la bria. C'est la différence entre la Amira et le Dibour. Le Dibour est le monde de la Asiya. Aseret Adibrot. Mais Asara Mahamarot. Les Mahamarot, c'est le monde de la bria. Le Dibour, c'est le monde... Concrètement,
ouais, ça va,
le langage philosophique, c'est la Amira.
Non,
le langage halachique, voilà ce qu'il faut faire. Et comment qu'on le fait, c'est le Dibo. Une dernière moi, question, on arrête.
Olivier, sur la paracha, parce qu'on n'a pas posé de questions.
Olivier, j'ai promis que je ne mettrai pas en colère.
Des questions politiques.
Tu as parlé de politique, pas moi. Moi, j'ai pas plus de droit. Question du chat.
Une question posée, enfin, qui arrive un peu en contre-argument, mais tout à fait en accord avec vous, quand même. C'est l'idée que Aaron annule quand même la Kehuna, malgré qu'il se soit... mis en avant.
Il a perdu deux fils à cause de ça.
Il a perdu deux fils, premièrement. Et il y a eu quand même une tribu de Ménaché qui est partie d'Égypte aussi.
Plutôt.
Passée par Gaza. Ils sont tous morts.
Ouais. Éphraïm, pas Ménaché.
Éphraïm.
Donc,
comment on comprend ça?
Quel rapport entre Aaron et Éphraïm?
Aaron, c'est la conséquence.
Oui.
Et la tribu de Éphraïm, c'est parce qu'eux, ils ont voulu aller en avant et prendre les devants.
Oui, mais la différence... Bon, d'abord, c'est un courant, ça, sur Éphraïm. Mais très rapidement, mais je massacre la réponse. Éphraïm sont partis sur un coup de tête.
Ouais.
Éphraïm ne se sont pas posé la question, est-ce que c'est le moment, pas le moment, est-ce qu'ils n'ont pas demandé à Moshe ou à Aaron, c'est bon que c'était Aaron. Ils ont pris l'initiative. Et en plus, ce qui est beaucoup, beaucoup plus grave, c'est cette initiative de sauve-qui-peut individuel, sauver leur tribu. C'était pas une action nationale. C'était pas une action de au moins proposer à tous ceux qui veulent les suivre. Ils sont partis tout seuls. Et ça, Hachem leur a pas pardonné. C'est la différence aussi, parce que pourquoi je fais allusion? Je fais allusion, mais bon, je me piège même parce que j'ouvre des portes qui nécessiteraient des milliers d'heures de cours. Sur le problème d'Ephraïm, certains disent, ceux qui sont contre ce qui s'est passé et se passe. Vous voyez bien, la tribu d'Ephraïm sont sortis avant le libérateur, ça leur a pas porté chance. Oui. Mais avec tout le respect que je dois à ces grands, je me permettrai de dire, et c'est très risqué ce que je dis, mais vous n'avez rien compris à la Torah, messieurs. Parce que c'est pas seulement ça le problème d'Ephraïm. C'est qu'Ephraïm, lui, a été puni parce qu'il est sorti tout seul.
Ils ont laissé
toutes les tribus crever. Tandis que ceux qui sont sortis maintenant, il y a 150 ans et 180, etc., n'ont pas arrêté de demander à tout le monde de les suivre. Et si beaucoup ne sont pas sortis, c'est parce qu'ils n'ont pas voulu suivre. Mais le discours n'était pas, allez, on va sauver les juifs russes, ou on va sauver les juifs polonais, ou on va sauver les juifs de Krakow, ou on va sauver les juifs de Moscou. Non. C'était, on va sauver les Juifs du monde entier, que la majorité n'a pas voulu suivre, c'est leur problème. Donc c'est pas du tout le même cas que les Bnei Ephraïm. Malheureusement, l'exemple des Bnei Ephraïm est constamment cité par les Antilles qui veulent, etc. Mais parce qu'ils n'ont rien compris à la Torah. C'est une Torah falsifiée qui est dans leur bouche. Non.
Et l'autre argument, c'était sur Aaron.
Comment?
L'autre argument, c'était sur Aaron qui a reçu la Kihuna malgré tout.
Mais il l'avait déjà reçu. Il l'avait déjà. Il l'avait déjà. Aaron avait déjà été choisi pour être le Cohen, déjà depuis, que Rachid nous dit, depuis la rencontre de Moshe au moment du Sné. Il avait déjà. Au contraire, Rachid nous dit qu'il a failli tout perdre. C'est Rachid. Tout perdre. Moshe a prié pour que le décret ne reste que sur deux de ses enfants. Mais donc il avait déjà la Kehuna. En faisant le veau d'or, il a failli tout perdre. Et Moshe est intervenu pour qu'il garde la moitié. Comprends? Qu'il garde la moitié.
Mais dans l'optique que vous avez dit au début de votre propos concernant la vision de Moïse, qu'il fallait
Moshe.
De Moshe, qu'il fallait construire les instruments du temple avant le plan d'ensemble. Okay? Alors qu'après vous avez dit Bezalel, finalement il avait un plan, une vision d'ensemble avant de construire les instruments, etc.
Oui.
Or nous savons dans la Torah que les deux paroles de c'est livré Elohim, c'est-à-dire c'est les paroles de Dieu. D'accord. Alors finalement, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'était important d'avoir d'abord le plan d'ensemble, ou est-ce que c'est important d'avoir...
Rachid répond. Rachid dit, regarde Rachid, que Moshe a dit lui-même à Bezalel, c'est toi qui as raison, ce que tu dis c'est effectivement ce que j'ai entendu. Ça veut dire c'est moi qui n'ai pas voulu bien entendre, parce que j'ai été selon mes tripes, d'accord. Et mes tripes me faisaient choisir d'accord. Plutôt la parole qui parlait les ustensiles avant. C'est-à-dire qu'en vérité, oui, Hachem lui a parlé les ustensiles avant, mais pas dans le sens de halakha. Il lui a parlé en général de ce qu'il devrait y avoir dans le tabernacle. Mais quand après Hachem a utilisé le langage de la halakha, quoi faire, il a parlé d'abord de la maison avant l'ustensile. Mais comme Moshe avait une nature à mettre la Torah en premier avant tout le reste, il ne s'est souvenu que du premier discours, pas du discours halakhique.
De toute façon, s'il n'y a pas de laissez-moi terminer. S'il n'y a pas de Makom, comment on peut installer les
ah non, je comprends. Non, mais
on
peut non.
Pas.
Mais si, Moshe pensait.
On n'a pas de temple, on n'a pas des instruments. Voilà,
Moshe pensait qu'on ne.
On peut reconstruire les instruments du temple, etc.
Mais non, mais Moshe pensait qu'on construirait les instruments qu'on laisserait dans une tente qui n'est pas le tabernacle. Après, on construit le tabernacle, après. On amènerait les ustensiles, mais on commencerait par construire les ustensiles.